Donc moi je suis Roberta Shapiro, je suis sociologue, membre d'une unité de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales qui s'appelle le IAC, l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Voilà, alors les trois intervenants aujourd'hui sont Vincent Becquet qui est sociologue, doctorant en sciences politiques à l'Université Droit et Santé de Lille 2. Jean Marcelin, il va parler donc tout à l'heure, enfin tout de suite, ce que les pouvoirs publics font au hip-hop, le cas lillois du Centre Euro-Régional des Cultures Urbaines, donc le FLO à Lille. Ensuite, ce sera Jean Marcelin Manga. Dans quel ordre est-ce qu'on avait prévu ça? Voilà, c'est Jean Marcelin Manga, qui lui est doctorant en socio-anthropologie. Au département de sciences politiques à l'université de Liège, et ensuite Nicanor Tachim, qui lui est doctorant en sciences de l'information à Paris-Est-Créteil, et qui lui va parler de la musique urbaine camerounaise. Jean-Marcelin Manga aussi va parler de la musique au Cameroun sur les enjeux de la création du syndicat national des acteurs des musiques urbaines. Donc je donne la parole à Vincent d'abord. Merci beaucoup. Là.
Ok. Merci Roberta. Merci à tout le monde. Merci surtout aux organisateurs. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents ici pour nous écouter. C'est chouette de participer à un événement comme celui-là. Du coup... le FLO est un équipement culturel qui a ouvert ses portes les 3 et 4 octobre 2014 à Lille. Et c'est un centre euro-régional des cultures urbaines, puisqu'avant de s'appeler le FLO, il s'appelait comme ça. Si j'ai le temps, je reviendrai sur cette particularité du terme cultures urbaines, puisqu'il a avant tout été pensé pour promouvoir les cultures hip-hop et accompagner les acteurs des différentes disciplines dans des processus de professionnalisation, dans des structures de formation, dans des structures tremplin. Le Buzz Booster vient d'être cité à Lille, c'est là-bas qu'il se passe maintenant. Donc voilà, le FLO c'est qu'un... C'est, ah oui, j'ai pas fait de PowerPoint, désolé, on va travailler un peu en imagination. Le FLO est assez particulier dans son implantation, puisqu'il ne dérive ni d'un accompagnement classique, historique des politiques publiques, des pouvoirs publics à l'endroit du hip-hop, c'est-à-dire plutôt financement politique de la ville, tout le monde connaît ça, plutôt en périphérie des centres-villes, ni d'un processus de reconnaissance que je dirais par le haut, avec une implantation en centre-ville. On est sur une structure financée et reconnue comme pratique culturelle, donc financée par le pôle culture de la mairie de Lille, mais qui a été implantée, construite et qui œuvre maintenant dans un quartier populaire qui s'appelle Moulins. Donc une situation un peu particulière, dans le sens où on est sur une reconnaissance un peu hybride, puisque pas tout à fait dans le centre-ville, pas que en périphérie pour faire du socio-culturel, bien évidemment, j'y reviendrai. Donc, j'ai commencé à quelle heure? Ok. Du coup, je vais développer un propos en trois temps. Je vais d'abord donner quelques éléments du contexte dans lequel a pu émerger un projet comme celui-là. Ça sera ma première partie dans laquelle je vous proposerai aussi une brève description du lieu. J'aurai un deuxième temps dans lequel j'apporterai quelques observations, quelques effets d'une forme juridique qui a été choisie pour mener à bien le projet FLO, qui est celui de la gestion municipale directe, et voir ce que ça peut faire sur les acteurs, quels qu'ils soient. Et en troisième temps, je m'intéresserai plutôt aux acteurs des pratiques hip-hop, et puisque là on est dans un colloque sur les musiques, donc je m'intéresserai à un rappeur et un beatmaker, à travers des positionnements, des navigations de jeux d'acteurs qui font avec une nouvelle structure présente sur la scène locale et qui s'appelle le flow. Peut-être dire aussi tout de suite que, avant de passer à ce contexte d'émergence, c'est quand même à Lille, et un peu comme partout, finalement, le dialogue entre des acteurs des pouvoirs publics, des acteurs politico-administratifs et des acteurs des différentes disciplines du hip-hop, c'est un dialogue qui est quasiment aussi vieux que l'émergence du mouvement dans la région. C'est-à-dire que si un mec comme un chorégraphe comme Farid Berki monte son association en 84, on trouve des traces d'un dialogue, d'un partenariat entre acteurs du hip-hop et pouvoir public dès la fin des années 80. Donc c'est une longue histoire dont on pourrait dire que le flow est un point de pivot, un point de rupture ou en tout cas une consécration d'une reconnaissance par la culture des pratiques hip-hop par les pouvoirs publics. Dire aussi tout de suite que le projet Flow ne s'est pas fait sans heures. Dès le début, donc l'émergence, la mise sur agenda du projet, c'est 2007, je vais y revenir tout de suite. Et dès le départ, il y a eu de vifs débats sur la forme que devrait prendre ce lieu, sur des risques de ghettoisation à enfermer dans un lieu et un seul lieu les différentes pratiques hip-hop. Voilà. Donc, si je dois donner quelques éléments d'émergence, quelques éléments de contexte qui permettent de voir un peu mieux comment on a pu aboutir à un tel lieu à Lille. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'aboutissement d'un long processus de reconnaissance que je vais essayer de détailler. Et comme je viens de le dire, c'est aussi l'aboutissement d'un long processus de mise en dialogue de différents types d'acteurs. Il faut remonter à l'année 2000 pour essayer de saisir une genèse du projet Flow. Pourquoi l'année 2000 ? Puisque, même pas un collectif, mais différents rappeurs de différents groupes, avec notamment un rappeur qui s'appelle Axiom, qui a joué un rôle important, et pas central, mais important dans cette histoire. Donc, dans les années 2000, une rencontre est créé à la demande des acteurs, des rappeurs, il n'y avait que des rappeurs, dans un petit théâtre qui s'appelle le Zem Théâtre à Lille, dans lequel ils ont convié des représentants des pouvoirs publics, donc élus, directeurs de structure, élus à la culture bien sûr, élus au service animation jeunesse aussi. Et finalement, ça a été l'occasion pour ces rappeurs de faire remonter quelques doléances, de faire remonter un constat qu'il y avait une carence en termes d'infrastructure, une carence en termes de fonds, une carence en termes d'accompagnement des pouvoirs publics à leur endroit. Et c'est un peu ce que certains ont appelé une saisine des pouvoirs publics par les acteurs locaux du hip-hop, et ce n'était que des rappeurs. En fait, cette réunion a une importance puisque un an et demi après va se créer un premier service culture urbaine à la mairie, mais rattaché au service animation et jeunesse. Donc pas encore sur une reconnaissance par la culture, là on est sur une reconnaissance par les pouvoirs publics qu'il existe dans la métropole, des talents, des jeunes qui se motivent autour de la danse, de la peinture ou de la musique. Je vais un peu plus vite. En 2007, c'est une année importante puisqu'il va y avoir plusieurs éléments. Le premier, ça va être à l'initiative de l'élu au service animation et jeunesse et de l'élu à la culture d'un transfert de ce jeune service cultures urbaines vers le pôle culture de la mairie. Il faut savoir qu'en 2007, on est 3 ans après un événement fort en termes de culture à Lille, c'était Lille 2004, capitale européenne de la culture, et que dans les années qui ont suivi jusque 2008, le budget culture n'a cessé d'augmenter. De fait, ce transfert du service culture urbaine, du service animation jeunesse vers le pôle culture, c'est accompagné d'une enveloppe de plus en plus généreuse, et surtout, c'est accompagné par la création d'un poste, un poste qui a été intitulé « Chargé de mission culture urbaine et pratique amateur ». La même année, année de campagne électorale, un concert en soutien aux sans-papiers est donné, à la suite duquel Axiom, que j'ai déjà cité, aurait soufflé à Martine Aubry l'idée de faire un lieu dédié aux pratiques hip-hop. Suite à cette rencontre entre un rappeur et la première magistrate de la ville, une réunion est organisée entre différents acteurs, réunion à laquelle a participé le futur directeur du FLO, un chorégraphe très connu qui s'appelle Farid Berki, un rappeur qui est en charge, enfin qui est au poste de chargé de mission des cultures urbaines et pratiques amateurs, Laurent Dreano qui à l'époque chapeautait un peu le dispositif Lille 2004, et c'est pendant cette réunion qu'a été mis sur agenda pour la première fois le fait qu'il fallait et qu'on allait à Lille construire un centre euro-régional des cultures urbaines. Donc une mise sur agenda qui commence en 2007 pour aboutir à une inauguration en 2014. Bref description du lieu. Bref description du lieu. Donc on est dans le nord de la France, on est dans un quartier populaire, on est sur un bâtiment à trois étages, donc rez-de-chaussée, trois étages et un sous-sol, un bâtiment qui fait pas loin de 2500 m², assez gros, qui a pignon sur rue, au croisement d'un axe assez central du quartier et d'une petite rue. C'est un bâtiment, faut vous imaginer un gros cube de verre, et des structures en béton recouvertes de verre. Ok, bon, je vais très vite, il me reste 10 minutes. Donc on y trouve ce qui est intéressant sur ce lieu, c'est qu'il est découpé en disciplines. Donc on va avoir des studios dédiés à la musique en sous-sol, on va avoir un étage dédié à la danse avec deux salles de danse, un vestiaire, des douches et tout ce qu'il faut, et un espace dédié à la peinture, donc un grand espace un peu comme celui-là, plus un accès vers l'extérieur pour l'utilisation d'aérosols, etc. etc. Bon, je passe très vite. Au niveau des activités, donc, puisqu'on est sur un lieu qui a pour mission la formation, l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs, il y a bien sûr une mise à disposition des locaux, donc les studios de répétition, les salles de danse, voire l'espace graffiti. Mais il y a une salle de diffusion aussi, il y a une énorme salle de concert. Et donc on a des concerts, il y a une mise en location des différents espaces, on peut y trouver des ateliers pour des publics spécifiques ou non, on y trouve des masterclass autour du beatbox par exemple, on peut y trouver des block parties, c'est un événement assez régulier. C'est un lieu qui, comme je l'avais dit, accueille des dispositifs nationaux, type Buzz Booster ou End of the Week, mais aussi des dispositifs de promotion des acteurs locaux, type Microphone Check. Donc voilà, il y a des rencontres débats autour d'un centre de ressources qui vient mutualiser différentes productions écrites, magazines, revues, romans, livres à caractère scientifique, traite de la question du hip-hop de manière précise ou généralisée. Donc voilà, un lieu dans lequel il y a pas mal de choses qui s'y passent, des choses très générales, des choses beaucoup plus spécialisées. J'en viens tout de suite à ma question de la gestion, donc du choix et de la forme juridique qui a été choisie pour organiser ce lieu, c'est celle de la gestion municipale directe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un EPCC, on n'est pas sur une délégation de service public, c'est-à-dire que ce n'est pas une association qui a en charge la mise en œuvre des projets dans le lieu. On est sur donc, une gestion, une régie directe, c'est-à-dire que c'est immédiatement piloté par la mairie. Cette forme juridique a des conséquences sur le champ des possibles dans ce qu'on ne peut faire ou pas faire dans le lieu. Et ça a aussi des conséquences sur l'équipe de travail et les usagers. Donc là, j'aimerais aborder deux points très rapidement. Le premier point, c'est celle de l'injonction au fonctionnariat. C'est-à-dire que, avec une régie directe, le mode de recrutement ne peut se faire que puisque c'est la mairie qui recrute, on est obligé de voir à tous les échelons de l'organigramme des titulaires, des fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire que ça n'a pas été sans conséquence sur la première année du lieu notamment, où, par manque de fonctionnaires, on fait appel à des intérimaires, des intervenants, qui vont être embauchés en CDD, un CDD qui peut être renouvelé une fois pendant un an, mais du coup, au bout de deux ans, il faut forcément trouver un fonctionnaire, sauf qu'il n'y en a pas tout le temps. Du coup, ça implique un gros turnover, et à certains postes, on a pu voir des personnes se succéder par manque de fonctionnaires sur un marché sur lequel il n'y avait pas les personnes nécessaires pour occuper le poste de manière pérenne. Donc ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, je suis obligé d'aller beaucoup trop vite. Deuxième conséquence, donc là il y a une injonction au fonctionnariat, je ne vais pas rentrer dans le détail. Deuxième conséquence, c'est sur ce qu'il est possible de faire en régie directe. Il faut savoir qu'une régie directe, si elle apporte certains conforts, elle apporte aussi des contraintes. Et je voulais me pencher avec vous sur la question de l'accès au studio. Accès au studio qui a été problématique la première année, un peu la deuxième année, et ça se ressent encore aujourd'hui. En gros, comment ça se passe? Vous êtes un rappeur, vous avez besoin d'accéder à un studio de répétition assez rapidement. La régie directe impose de venir avec un statut associatif ou avec des preuves d'assurance. Il faut ensuite envoyer un dossier en mairie qui va être où une convention va être signée, puis il y a un retour au niveau du flow, et puis après il faut recontacter la personne qui avait besoin du studio. Donc une temporalité très longue qui ne correspond pas à la temporalité des acteurs qui ont un besoin plus urgent d'accès aux locaux. Donc ça, c'est un deuxième cas où finalement donc la première année, vu que c'était impossible, l'équipe en gestion du lieu a plutôt fait le choix de passer outre ces contraintes juridiques fortes pour pouvoir permettre un accès au lieu, on va dire, facile. La deuxième année, il y a eu une amélioration dans le cadre de cette forme juridique, à savoir la régie directe, c'est-à-dire que d'un délai d'à peu près 3 semaines, on est passé à un délai d'une semaine, mais c'était encore trop long pour pouvoir accéder au studio de manière légale. Et en plus de ça, il y a une politique tarifaire qui fait que les studios sont devenus payants. De fait, il y a eu une baisse du taux de fréquentation des rappeurs au niveau des studios, ce qui a eu pour conséquence, depuis le début d'année, on va dire depuis septembre, d'une ouverture des studios de répétition à des musiciens, à des chanteurs qui ne font pas partie de la scène hip-hop. Donc une ouverture à d'autres groupes, même s'il y a toujours une préférence, une priorité pour les rappeurs. Donc je vais encore très très vite. Au niveau des acteurs, et là je crois que je terminerai là-dessus, c'est pas... Donc voilà, ça c'était pour la contrainte régie directe et le choix d'une gestion municipale directe. L'arrivée du flow dans une scène où il y a une histoire, dans une scène sur laquelle il y a déjà d'autres lieux, il y a un passif, il y a des acteurs dans à peu près toutes les disciplines, il y a des circulations de savoir, de biens économiques ou pas. Cette implantation, cette arrivée du flow n'est pas sans conséquences non plus sur ce que j'ai appelé un peu les navigations des jeux d'acteurs. Je donne deux exemples très vite et je m'arrêterai là-dessus. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, le projet Flow s'est pas fait sans débat. Tout le monde y a mis du sien pour, dans un premier temps, critiquer très fort cette emprise municipale sur une culture populaire qui devrait rester dans l'espace public et s'épanouir dans la rue, etc. etc. Je ne vous refais pas le discours. Donc deux cas. Le premier, on va dire, allez, c'est celui de Simon. Simon, 29 ans, rappeur, slammer. Qui, dans un premier temps, donc avant l'avènement et l'inauguration du Flow, va écrire dans un article critique sociale de Lille qui s'appelle La Brique, un article assez violent à l'endroit du Flow, alors qu'il en est à un moment où le Flow n'était pas encore là, et qui va dire qu'il faut s'élever contre ce bastion des cultures urbaines, qui va expliquer que il faut prendre position entre la reconnaissance des élites, le succès et la réussite d'une part, et la liberté, l'indépendance et la rue d'autre part. 14 mois plus tard, après avoir refusé une première fois, Simon participait à l'inauguration du lieu et il explique ce choix par un manque d'argent à ce moment-là. Il avait besoin de thunes, donc voilà. Deuxième cas, c'est celui de Martin. Donc là, Simon, c'est vraiment le cas typique, et il y en a plein d'autres, hein, d'une position anti-flow, d'une position de détracteur vers un rôle de porte-parole, quelque part. Maintenant, le cas inverse existe aussi, c'est-à-dire que des promoteurs du lieu vont aussi en devenir les pourfendeurs. L'exemple du premier chargé de projet, quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui est beatmaker depuis des années, qui anime une émission de radio depuis des années, qui a un studio d'enregistrement dans lequel il a enregistré pléthore de groupes de la région depuis des années, qui est premier chargé de projet du Flow et qui, dans une conférence donnée à Sciences Po, à Sciences Po Lille en février 2015, va faire un parallèle entre le Flow et ce qu'a pu être le terrain vague de la Chapelle ici à Paris, que ça va être le lieu de rencontre, de point de rencontre des énergies, des acteurs. Voilà, vous voyez où je veux en venir, un promoteur du lieu. Son contrat n'est pas renouvelé au bout d'un an puisqu'il n'était pas titulaire ni de catégorie A, B ou C, ce n'était pas un fonctionnaire. Donc à partir du moment où il est hors jeu, à ce moment-là, il m'appelle une fois et pendant une heure, il va me dresser une liste noire de tous les points qui ne vont pas, que ce soit les lourdeurs de la régie directe, les temporalités administratives, les relations interpersonnelles qui ne sont pas saines. Donc voilà, un passage d'une position pro à une position anti. Donc, et je vais finir là-dessus, finalement un lieu qui vient quelque part reconfigurer les positionnements des acteurs qui vont au gré de leurs besoins, quels qu'ils soient, au gré de leur carrière, se faire le détracteur, le procureur, ou plutôt l'avocat du lieu. Merci à vous.